EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, le Seigneur a décidé de nous mûrir pour qu'on devienne de véritables disciples de Jésus-Christ, mais en touchant un sujet particulier. C'est de nous faire réfléchir, comment vais-je un jour finir ma course? Qu'est-ce que c'est que la course de la foi chrétienne? On a appris toute cette illustration, c'est ce symbolisme, cette métaphore que Paul utilise, empruntée de l'athlétisme comme un sportif. Nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. On a appris bien de choses. À cette étape, on aimerait se poser la question. Et si je courais bien et que je me sois un peu fatigué, j'ai perdu le momentum et que j'ai perdu la vitesse, que je commence à me ralentir. Pasteur, je courais, mais j'ai l'impression que je marche maintenant, je cours plus, j'ai perdu l'élan, que faire? Il faudrait qu'on s'entraide sur cette question-là. Que faire? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici la première des choses que vous devez faire lorsque vous avez l'impression de vous ralentir. Bah, bien sûr, on se ralentit, ça signifie déjà quoi? Ah oui, bon, ok, commençons par là alors. C'est quoi sentir qu'on a commencé à ralentir? Eh bien, c'est certainement parce que on sent et on a compris qu'on perd de l'engagement dans notre foi. On perd de l'intimité avec Dieu. On perd la sensibilité au péché. On perd la sensibilité aux choses spirituelles et aux choses qui concernent le royaume de Dieu. On perd de la proximité avec l'œuvre de Dieu et son Église. On perd, on ne gagne plus. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne que plus de mauvais amis, de mauvaises compagnies. On ne gagne que plus de moqueries et de railleries et le langage du monde devient notre langage. On sent qu'en tant que sel, on a perdu sa saveur. Ça signifie que même en termes de course, tu n'as plus la même vitesse vers la vocation céleste. Restant donc dans cette image de course, on tente simplement de dire comment se relever quand on s'est épuisé dans la marche chrétienne. Comment se relever? Comment reprendre ce premier amour? Comment se ressentir encore enflammé pour Dieu et continuer à garder son regard vers la direction finale? En restant dans cette métaphore, nous pouvons donc développer des choses intéressantes qui peuvent nous aider. Première chose, entretiens mieux ta relation avec le Saint-Esprit. Quand tu as l'impression de t'être ralenti, ô toi coureur, très cher collègue, dans la course, entretiens mieux ta relation avec le Saint-Esprit. La vérité sur le Saint-Esprit n'est pas comprise de la même manière au milieu de chrétiens. Mais une chose est vraie, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ a dit aux disciples, restez là, vous ne pouvez rien faire, vous êtes bon à rien en cet état. Vous avez vraiment besoin qu'il vienne. C'est lui qui témoigne Christ en nous. C'est lui dont Paul dit, il crie en nous, Abba. Quand tu as l'impression que ça ne va pas, ça veut dire que quelqu'un est devenu triste en toi. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est possible que tout ce que tu ressens là, c'est le fait que ta relation avec le Saint-Esprit n'est plus la même. Lorsque tu pèches, lorsque tu vis dans une vie permanente de péché, lorsque tu tournes ton dos contre le Seigneur, eh bien, puisque tu as reçu l'Esprit de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est clair, tu es en train d'attrister l'Esprit. Si tu as donc l'impression que tu te ralentis, quelque chose ne va plus, s'il y a des points à regarder sur ta liste, regarde d'abord comment je vais avec le Saint-Esprit. Comment ça va avec l'Esprit de Dieu? Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Il est écrit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul parle du fait que lorsque ces antivaleurs, ces œuvres de la chair se mettent à régner dans un milieu chrétien, eh bien, l'assemblée, le groupe, la famille chrétienne attriste l'esprit. C'est par extension qu'on se rend compte que ces mêmes choses, lorsqu'elles demeurent dans notre vie personnelle, on attriste le Saint-Esprit. Il dit que l'amertume, l'animosité, la colère, la calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant. Si tu as commencé à te ralentir, ça veut dire que tu es en train de garder de l'amertume. Quelqu'un était méchant envers toi et tu te prépares un jour, au jour où tu deviendras méchant. Et tu as commencé à cohabiter avec un mal à l'intérieur de ton cœur. Tu attristes l'esprit et tu continues à vivre comme ça. Chaque fois que tu commences à vivre une vie où tu attristes l'esprit, tu perds de la vitesse dans cette marche. Pasteur, ça veut dire que avec le Saint-Esprit, dès que j'ai fait un péché comme ça, le Saint-Esprit... Non. Écoutez bien ma démarche. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous voulez entretenir, c'est comme un véhicule. Vous le conduisez matin, midi, soir pour faire l'entretien sur la liste de choses à faire. Quand vous allez en entretien, sur les différentes boîtes sur lesquelles vous devez ticker, on regarde, quand vous allez à l'entretien, vous savez, moi, la première fois, je suis allé faire l'entretien du véhicule, j'ai entendu des termes que je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait dans les véhicules, hein. J'ai entendu des termes incroyables. Je ne sais pas si vous avez entendu. Moi, j'ai grandi au Congo, à Kinshasa. Quand on dit boudin, c'est charcuterie. Alors moi, je vais dans la voiture, on dit le boudin ne marche pas. Boudin? Dans la voiture? On a cité des choses que je savais pas qu'il y en avait dans un véhicule. Mais on devait regarder. Carburateur. Pour les véhicules avec carburateur encore. Accélérateur. Et les bougies. Voilà. Des termes comme ça. La première fois, j'ai entendu bougie, pour moi, c'est bougie. Mais je vais, on dit, mais les bougies de ton véhicule sont brûlées. J'ai dit, les bougies qui sont brûlées, c'est pas pour ça que c'est fait, les bougies, justement, pour que ça brûle. Bougie. Il en est de même de la foi chrétienne, de notre marche, si on est en train de courir vers l'objectif final, si on garde, si on combat bien le bon combat, pour se rassurer qu'on est en train de combattre bien le bon combat. Eh bien, va dans la box appelée « Relation avec le Saint-Esprit ». Il faudrait que tu sois capable de tiquer, de dire « ça va ». Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'écoutes encore? Est-ce que tu lui obéis encore? Est-ce que tu n'as pas tellement attristé, désobéi à l'Esprit que tu tentes de le faire taire en toi? Non, pasteur, moi je ne comprends même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de moi. Tu es sûr, comment t'es devenu chrétien? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Les faits que... Moi, j'ai souvent entendu les gens dire, mais moi, je n'entends pas Dieu. Oh, mon ami, ça, c'est un grand mensonge, en fait. Tu ne peux pas être devenu enfant de Dieu sans avoir entendu. Parce que ces brebis entendent sa voix. Pour que nous venions au Christ, c'est le Père qui nous attire. Fondamentalement, pour que tu deviennes enfant de Dieu, c'est la preuve que tu as perçu la voix de Dieu dans ton cœur. Est-ce que c'est par les oreilles? Non. Mais dans ton cœur, tu as reconnu la voix qui t'est dit, quitte cette voix-là, viens ici. Quitte le péché, viens ici. Alors, il est important de reconnaître que ça ressemble dans ta tête comme une voix de conscience. Mais il s'agit beaucoup plus ici de la vérité de la parole de Dieu qui est alimentée dans ton cœur, dans ta relation avec le Saint-Esprit. L'Esprit te rappelle l'enseignement de Jésus. Comment va le Saint-Esprit avec toi? L'Esprit te rappelle les vérités éternelles, les caractères à bâtir. Comment va le Saint-Esprit? Si quelque chose se ralentit, ce que tu as commencé à cohabiter avec quelque chose, tu as commencé à faire cohabiter l'Esprit de Dieu avec quelque chose qui ne devait pas rester avec lui. C'est le Saint-Esprit. Donc, ne fais pas cohabiter avec rancune, péché, animosité, colère, calomnie, méchanceté. Le Saint-Esprit demande la sanctification. Deuxième box à ticker quand tu fais ton entretien spirituel pour te rendre compte qu'est-ce qui te fait ralentir. Deuxièmement, débarrasse-toi de tout fardeau. Je ne le dirai jamais assez, mes frères. Surtout en ce 21e siècle, en cette époque de vie de pression, à cette époque des vitesses industrielles mondiales, où tout va à la grande vitesse. Une chose qui était fantastique aujourd'hui, qui a tenu tout le monde en haleine, tout le monde n'avait que ça, c'est le grand buzz de la journée. Le lendemain, ça s'est fait renverser. Ce qui a pu te faire faire des milliards aujourd'hui, demain te fait tout descendre. Le monde vit dans une telle forme de pression. Très facilement, on peut s'embarrasser des choses dont on n'a pas besoin. Dans ce 21e siècle de publicité, des ads, tu es en train de... La publicité vient en plein milieu, au moment où tu t'y attendais le moins. En ce 21e siècle, on est en quête de l'attention du consommateur. On fait participer la neuropsychologie pour savoir comment maintenir les consommateurs. Il est très facile de se surcharger et de commencer à ralentir dans sa marche chrétienne. Débarrasse-toi de tout fardeau. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit: c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Vous voyez, nous avons une course. Paul dit, nous avons une piste tracée devant nous, on doit courir, on doit avancer. Et qu'est-ce qui peut nous alourdir? Tout fardeau. Et par le mot fardeau, il distingue dans cette catégorie des fardeaux un espèce bien particulier qu'il appelle péché. Au début de ma foi chrétienne, j'ai tout très tôt appris ce terme qui est devenu un terme évangélique très souvent utilisé. Le péché chéri. Le péché mignon. C'est-à-dire un péché auquel on est tellement habitué qu'on se demande: ah, Seigneur, si ça pouvait ne pas être un péché, moi j'aime tellement faire ça. On a un conflit qu'on appelle en psychologie un conflit appétence-aversion. C'est-à-dire, c'est à la fois la chose que tu aimes qui te répugne le plus. Tu es partagé à l'intérieur de toi. Mais ça ne devrait pas en être ainsi. Quand tu deviens partagé à l'intérieur de toi, tu te ralentis. Paul dit que ces choses alourdissent notre marche. Tu ne peux pas courir comme ça en te remplissant des fardeaux inutiles. Premier fardeau à mettre de côté, cette vie de péché. Autre fardeau à mettre de côté, le souci inutile. J'aime comment Paul dit, il dit, ne vous inquiétez de rien. La version parole vivante dit, débarrassez-vous de tout souci. Le souci de ce monde, le souci du siècle présent. Vous pouvez rencontrer un enfant de Dieu très triste. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, bon, j'espère seulement au Seigneur, je fais foi à Dieu, que le Dieu qui m'avait promis un jour. Moi, j'ai toujours dit que Dieu ne ment pas. Un jour, j'aurai aussi un iPhone Pro. Ah, mon ami, pour un iPhone 16 Pro, que tu as des soucis comme ça. Franchement, pour ça, pour un véhicule, rien que pour ça, allez. Celui qui invente, qui conçoit dans l'industrie de fabriquer cet outil ou cette chose, il va avoir souci de quoi? Si toi, tu as totalement souci du véhicule qu'il a inventé, tu n'as souci que de ça. Lui, entre nous, c'est dans quelle direction qu'il met ses soucis? Mes amis, rien ne devrait occuper autant votre pensée, votre cœur au point de devenir un si grand fardeau qui fait que tu ne sais plus prier. Quels sont les fardeaux qu'il y a dans ton cœur? Oh pasteur, j'ai un fardeau. Quel fardeau? Je veux la guérison de mon frère. Même ça, un fardeau aussi noble, tu ne peux pas le transformer en un souci. Tu dois l'amener comme un fardeau, le déposer au pied du Seigneur. Un souci, c'est le genre de fardeau qu'on amène. Papa, on arrive devant le Seigneur, on dit, Seigneur, vraiment, j'avais des fardeaux. Seigneur, oui, Dieu, il est dit, oui, donne. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans ce fardeau? Oui, ici, il y a mon père, il y a ici. Ah, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon fardeau? Oui, dis-moi. Il y a ma sœur qui n'arrive pas toujours. Dieu, tu sais ce qu'il y a dans mon fardeau? Oui, dis-moi. J'arrive pas toujours à payer mes frais académiques. Dieu, tu sais ce qu'il y a dans mon fardeau? Oui, dis-moi. Je voudrais me marier, mais la liste de la dot, c'est chaud. Oh, OK. Donne-moi. Seigneur, j'en ai encore besoin. Mais tu ne devais pas te débarrasser de ton fardeau. C'est comme ça que les gens vont en prière 10 jours, ils vont au culte, ils prient, alléluia, ils adorent, ils prient, ils déposent leur fardeau. Quand le culte finit, on lui demande comment ça va. Ah, mon frère, ces derniers temps, j'ai vraiment des problèmes. Eh, mais je pensais que tu venais de déposer les fardeaux. Le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur regarde et dit, oh, il n'avait jamais déposé le gars, il est parti avec. Mais pourquoi vous partez avec vos fardeaux après la prière? Pourquoi vous partez avec? Un jour, j'étais allé voir le médecin qui me prenait les paramètres et tout ça, l'infirmière. Et puis, il dit, mais pasteur, comment vous faites pour avoir une tension pareille? Je ne suis pas en train de dire que ce sont les raisons physiologiques de ça. Je n'essaie pas de justifier ça médicalement. Mais il dit, comment vous avez une tension artérielle pareille? Comment vous êtes comme ça? Très souvent, on aime associer sa tension artérielle aux soucis, aux quoi, aux différentes choses qu'on a dans notre tête. Et j'aimais l'expression qu'elle a utilisée, elle dit, vous avez la tension d'un bébé, c'est comme si vous n'avez aucun souci. Et pour rire, je lui ai dit, ben c'est vrai, j'ai déposé tous mes fardeaux. Frère, dépose tous tes fardeaux. Et Dieu s'en occupera. Et là, j'aime ce que la Bible dit, et la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Christ. Débarrasse-toi de tout fardeau et tu verras que tu reprendras la vitesse. Ce qui t'alourdit maintenant, c'est que la responsabilité de Dieu est devenue l'objet de tes fardeaux. De fois, on est focalisé que sur notre exaucement là qu'on attend. On regarde que ça. Le fait que tu sois tout le temps en train de penser à ce qui devait arriver, ça ne va pas améliorer ça. Prends cela, dépose ça à Dieu, il va s'en occuper. Ah non, moi je fais que penser à ça, je pense ces derniers temps, je ne pense qu'à ça. C'est pas parce que tu penses à ça ces derniers temps, à tout moment que ça va se faire. Fais confiance à Dieu, c'est ça la foi. Je vous donne un exemple. Je suis là, je viens, je dis à quelqu'un, ah écoute, est-ce que tu peux m'amener de l'eau à boire? Et ok, il part, les chercher. Et moi, tout ce temps-là, je suis en train de me dire, oh, est-ce qu'il va m'amener de l'eau? Quand est-ce qu'il m'amènerait de l'eau? Est-ce que vraiment ça sera dans un verre? Oh vraiment, il faut qu'il m'amène de l'eau. Le temps que je passe à me préoccuper du fait qu'il m'amènera de l'eau ou pas, est un signe fort que je n'ai pas confiance en lui. Je ne me suis pas débarrassé de mon fardeau. Mais quand je sais que c'est un adulte vacciné capable de quitter un point A vers un point B, de prendre un verre, d'y mettre de l'eau, de me l'amener sans qu'il me raconte une histoire comme quoi c'est tombé, j'oublie et je me mets à faire autre chose. C'est ce que Dieu dit. Il dit, si vous me faites confiance, faites autre chose, je m'en occupe. Débarrasse-toi de ce fardeau. Ton Père qui est dans les cieux, il sait que tu veux te marier. Ton Père qui est dans les cieux, il sait que tu es en train de lui demander le travail. Après avoir demandé, après avoir insisté, débarrasse-toi de ce fardeau. Troisièmement, on est en train d'apprendre les choses qu'il faut savoir, la liste des choses qu'il faut savoir dans l'entretien de sa vitesse. Quand tu te rends compte que tu n'as plus la même vitesse, comme si tu avais ramené un véhicule en entretien, qu'est-ce qui empêche à mon véhicule d'être aussi rapide? Je suis pas bon mécano, donc je saurais pas vous dire exactement. Mais tu t'es dit, bon, certainement, quelque chose avec des bougies ou quelque chose avec l'embrouillage ou quoi. Mais dans la liste des choses qui t'empêchent d'être aussi rapide, de vivre en fait ta course dans le bon rythme, on a commencé à regarder des points. Regarde ta relation avec le Saint-Esprit, débarrasse-toi de fardeaux. Troisièmement, accroche-toi aux autres. Pasteur, qu'est-ce que tu entends de dire? C'est pas toxique ça? Non, c'est pas de ça que je parle. Je te parle pas d'avoir une relation toxique au point où tu es accroché au dos des autres comme une sorte de sangsue qui est là. Non, non, non. Je suis en train de dire qu'à la marche chrétienne, quand on court seul, on a l'impression qu'on se fatigue. Fais des chaînes avec leurs mains. Tiens-les comme ça. Leurs coudes. Marche. Cours avec eux. Ils te maintiendront dans leur vitesse. La foi chrétienne n'est pas censée être vécue seule seulement. Les autres existent pour un but. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16 dit. Jacques 5, 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Regardez comment Jacques dit, ne les faites pas seuls. Chantez, gloire à Dieu. Quand vous avez la souffrance, priez. Oui, c'est bien. Mais vous êtes malade. Vous ne fonctionnez plus à 100%. Demandez de l'aide. Est-il possible que vous soyez en fait malade? Pas seulement physiquement, vous soyez malade spirituellement. Vous n'allez pas vous en sortir seul. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. C'est pourquoi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants, les évangélistes, les diacres, les responsables des départements, les ministres à l'église, toutes ces personnes, les frères et sœurs de groupes d'études bibliques, toutes ces personnes existent pour qu'on puisse s'accrocher dessus quand on se fatigue. Accroche-toi aux autres. N'essaie pas d'être solitaire. C'est comme ça que le loup vient dévorer les brebis dans la bergerie. Accroche-toi aux autres. Pasteur, moi, je ne veux pas que les gens entrent dans mes histoires. Tes histoires-là vont devenir notre histoire à nous tous. Il n'y a rien de ce qui s'est dit dans les secrets qui ne va pas finir à être dit sur les hauts des montagnes et sur les dessus des maisons. Tu n'as rien à cacher pendant que tu meurs. On ne te demande pas de chercher la solution chez tout le monde et n'importe qui. Mais reste pas comme ça. Accroche-toi aux autres. Je me rappellerai un jour, l'un de mes... vraiment de mes mentors, de mes pères dans la foi. Papa Alain Moloto qui nous a quittés. Un jour, il y avait un temps de prière. Et lui, il ne se sentait pas bien. Mais on devait faire une veillée. Un temps une nuit de prière, on devait commencer la journée. Et la nuit, on devait continuer la prière. Et lui, il ne se sentait pas vraiment bien. Et puis, il a eu une journée très difficile. Bon, on faisait la nuit de prière chez lui à la maison. Donc, nous les jeunes, on était là. Il fallait faire la nuit de prière au salon. Prier et tout et tout. Alors là, il se rend compte que la nuit de prière doit commencer, il ne se sent pas bien, il est épuisé, il est fatigué, son corps ne va pas bien. Au moment de la nuit de prière, on voit quelqu'un qui vient. On n'est pas censé venir avec son lit ou son matelas. Mais lui, il vient avec de quoi dormir. Il dit, mais tu ne te sens pas bien, tu ne devais pas venir. J'aime ce qu'il a fait comme blague. Il a dit, j'ai amené tout, je vais dormir dans la présence. Juste une façon de dire, mon corps est tellement fatigué, je ne vais pas bien, mais je vais tellement participer à cette nuit de prière que je vais m'accrocher à vous. Eh bien, il a dormi dans la présence et quelquefois, au moment où il dormait complètement, il reprenait le temps de prier aussi. Ça, c'est une chose que ma femme et moi avons pris comme résolution dans notre couple. On s'est dit, chaque fois que tu viens et que ta journée a été différente de l'autre, et que tu as eu une longue journée, et que voilà, peut-être que quand tu arrives, l'autre est déjà en train de dormir. Quand c'est l'heure de la prière, agenouille-toi. Pose tes mains sur ses pieds, sur sa tête, quelque part. Reste en contact physique avec lui et prie. Et c'est merveilleux de voir que même quand c'est moi qui étais fatigué, puis je dormais déjà, ma femme arrive, elle se met à prier. Quand elle me touche les pieds, je sais. Et quelquefois, c'est à peine que je dis « Amen. Oui, Seigneur. J'essaie, je participe, je m'accroche à elle. Tu ne peux pas le faire seul. Accroche-toi. Va voir quelqu'un. Demande de l'aide. Prie ensemble. Tu es marié et tu es marié à un chrétien, un enfant de Dieu. Tu te meurs comme ça. Parlez-en à ton mari, parlez-en à ta femme. Parlez-en à quelqu'un, même à ton enfant à la maison. Priez ensemble. Accroche-toi aux autres. Quatrièmement, résiste au diable. Ça, c'était prévisible, n'est-ce pas? Si tu as l'impression que tu commences à te fatiguer, à t'épuiser, à ralentir, je pense qu'il y a un gars qui cause ça tout le temps. Il faut aller voir de ce côté-là. Il s'appelle Satan. Le diable ne veut pas que nous puissions vivre notre course, notre foi chrétienne à la bonne manière. Alors, après avoir regardé ta relation avec le Saint-Esprit, après s'être débarrassé de tout fardeau, les péchés ou toute autre forme de fardeau, après s'être accroché aux autres, Si tu sens que l'élan ne vient pas, tourne-toi de son côté aussi. Ce côté-là, le côté de l'ennemi. Et résiste-le. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et enfin, la quatrième et la dernière chose, la cinquième plutôt et la dernière chose, c'est que quand tu as l'impression de te ralentir dans ta marche chrétienne, une chose à faire, rejette toute forme d'orgueil. Pourquoi j'en vais là? Parce que quand tu as un ennemi que tu n'arrives pas à vaincre, qui est si fort que le combat ne finit pas, il est possible que ce soit l'Éternel lui-même. Et Dieu, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. La chose qui peut être en train de rendre ta vie spirituelle aussi épuisée, c'est le fait que tu as trouvé un logement à l'orgueil dans ton cœur. Tu as si tellement développé l'orgueil en toi. L'orgueil t'alourdit. L'orgueil te transforme en ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, versets 4 à 6. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Résiste, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il le fait grâce aux humbles. » Regarde la place de l'humilité dans ton cœur. L'indice de l'humilité, quand tu n'en as plus, c'est que tu n'as plus d'huile dans ton moteur. Tu ne peux plus avoir la même puissance. Tu n'as plus d'huile. Dieu te résiste. L'orgueil te tue. Avant même que Dieu te résiste, l'orgueil est une infection. Tout ce que tu fais quand c'est empreint d'orgueil, c'est comme si tu as mis trop de sel dans ton repas. On ne sait même plus. C'est bon à voir, mais ce n'est pas bon à goûter. C'est bien de savoir qui tu es. Les gens préfèrent te vivre avec toi de loin. Alléluia, mon frère, il est bien, mais de près, il dit, il a un mauvais goût. Il est orgueilleux, imbu de lui-même, rempli de lui-même. Il pense tout savoir, tout connaître. Et quand tu as cette attitude, tu mourras dans ta vie de prière. Tu mourras dans ta façon de t'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es tellement rempli de toi-même que tu ne sais même plus voir où tu vas. Et quand même tes yeux deviennent aveugles comme ça, tes ténèbres deviennent plus grandes. Alors, si vous avez compris comment faire l'entretien de votre véhicule, comment regarder les points importants pour évaluer la raison de notre ralentissement dans notre course spirituelle, si vous avez compris ces quelques cinq raisons, c'est que vous êtes vraiment un véritable étudiant, disciple des Teach. Et c'est pour ça que je fais ce travail, pour que ça devienne clair, simple et surtout pragmatique. Pour ça, on se voit demain. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.